Une question, qui a tué Christiane Comeau, retrouvée dans un bois de lin en 2005 après 20 ans d'enquête et de piges jamais concluantes? La question reste sans réponse, mais l'enquête a été reprise par le pôle Affaires non élucidées de Nanterre avec comme point de départ des analyses ADN. Avant d'échanger avec nos invités, Dominique, voici les informations à connaître avec Elisa Tralin.
Ce sont des petits détails qui vont rapidement faire penser à ses proches qu'il est arrivé quelque chose à Christiane Comeau. Ce matin du 22 octobre 2004, la quinquagénaire est rentrée des courses. Elle a garé sa Renault Twingo dans son box, mais contrairement à son habitude, elle n'a pas verrouillé la porte du garage. Dans l'entrée de son appartement, elle a déposé son sac, son téléphone et ses courses, mais elle n'a même pas pris le temps de ranger les surgelés. Ce jour-là, enfin, Christiane était attendue à 14h au boulodrome de Chassieux où elle travaillait comme serveuse. D'ordinaire ponctuelle et sérieuse, elle ne s'y présentera jamais. Cette grand-mère, décrite comme bienveillante, a-t-elle été enlevée sans que personne ne s'en aperçoive ? L'absence de témoins est impensable pour sa petite fille.
Dans son quartier où tout le monde surveille les agissements de tout le monde, et de se dire que personne n'a rien vu, rien entendu, c'est une route assez passante, c'est un quartier assez passant aussi, et c'est pas possible que personne ne sache rien.
4 mois après cette étrange disparition, le squelette de Christiane Comeau est retrouvé dans un bois à une vingtaine de kilomètres de chez elle. La quinquagénaire a été exécutée de 2 balles dans la tête. L'arme du crime, un 22 long rifle, une carabine commune chez les chasseurs du coin. Plusieurs d'entre eux sont interrogés, tout comme les boulistes du club de Chassieux. Mais faute de suspect, le dossier est refermé. En 2022, il est finalement confié au pôle des affaires non élucidées. Des témoignages aux analyses balistiques et ADN, tout doit être repris depuis le début pour tenter d'élucider le mystérieux crime de Christiane Comeau.
Pour en parler, Dominique, nous accueillons Samuel Le Temple. Bonjour. Vous êtes le fils cadet de Christiane Comeau, à vos côtés, votre ex-femme, Isabelle Desbuissons. Merci également d'être là. Vous continuez le combat avec votre ex-mari, évidemment tout présent, puisque vous aviez vécu notamment ces jours tragiques ensemble. Et Marion Garnier, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, réalisatrice, autrice de ce livre, Cold Case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires, revivez l'enquête, paru chez Larousse. Vous aviez 34 ans. À l'époque des faits. Est-ce que vous vous souvenez de cette journée et comment vous expliquez que 20 ans après, on en soit toujours là ?
Oui, je me souviens très bien de cette journée. Oui, elle a été assez
éprouvante.
Oui, éprouvante, oui. Ouais.
Enfin, journée dont on ne pourra jamais voilà.
Non, c'est vrai que c'est resté gravé dans la mémoire.
Comment ça se passe ? Parce qu'au début, c'est l'inquiétude de ce club de boulistes.
L'inquiétude de la disparition.
Ouais. Ouais. Oui, c'est clair que... au début, il y a le patron qui vient voir aussi son employé, chercher son employé. On trouve pas ma mère. C'était vraiment terrible. En fait, c'est une journée qui a été vraiment.
Samuel, vous êtes inquiet tout de suite ou vous vous dites bon, elle est peut-être partie une journée, elle va revenir.
C'était pas dans ses habitudes. Elle était cadrée, et puis elle devait aller travailler. Tout était organisé. C'était.
Donc pour vous, c'est grave dès le départ.
Ah bah,
c'est quelque chose.
Du départ, oui.
Vous allez chez elle, parce qu'on voit dans le sujet d'Elisa Tranin, donc on retrouve chez elle ses courses, elle est rentrée de faire ses courses, les surgelés sont là dans les sacs. Vous allez chez elle tout de suite ?
Voilà, je suis arrivé tout de suite tout seul avec mon frère qui est arrivé derrière moi.
La gendarmerie,
c'était ils étaient tous.
Tout le monde était là, déjà ?
Ah oui, c'était.
Ils les attendaient
juste pour une disparition ?
Une disparition, oui, bizarrement. Et du coup, après, on m'a posé les questions, savoir si je savais où ma mère. Ben non. Et je lui dis, il y a une chose qui n'est pas normale, c'est que son box ne soit pas verrouillé. Quoi. C'est-à-dire qu'après avoir constaté que les courses étaient en place, son téléphone portable, son sac à main dans l'entrée, on va au box souterrain où on voit la voiture extrêmement bien garée comme elle le faisait tout le temps, c'était assez maniaque.
Qui n'est pas une Twingo, qui est une Renault
5. Non, là, ça, c'est une vieille photo.
C'était une Twingo.
Là, c'était la Renault 5. C'est une ancienne photo.
Voilà. J'aurais mieux fait de
voilà. mais elle était super bien garée, le box fermé, mais pas verrouillé. Et ça, c'était impossible.
Et on ne trouve pas la clé.
Non, mais pas de clé.
Plus de clé de voiture, plus de clé du box.
Marion, on ne trouve pas la clé.
En fait, dans cette affaire, dès le début, la famille voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche parce que Christiane Comeau, c'est quelqu'un d'assez maniaque, ça gentiment, mais qui vit avec des rituels. Donc en fait,
elle deux enfants, 6 petits-enfants, totalement tranquille.
Et elle fait toujours pareil. Donc ce jour-là, elle a été faire des courses le matin, elle est arrivée chez elle, elle a laissé sa voiture devant sa résidence le temps de déposer ses courses et son sac à main. Et ensuite, comme tous les jours, elle est partie dans son garage. Elle a mis sa voiture, elle a verrouillé sa voiture, elle est sortie du box, elle a commencé à fermer la porte du box, et c'est sans doute à ce moment-là qu'elle s'est fait agresser, puisqu'on retrouve dans son appartement son sac à main et les courses qui laissent penser qu'elle n'est jamais remontée chez elle, et que les clés, le box, la voiture et l'appartement étaient sur le même trousseau et tout a disparu.
Pardon Marion, mais on est dans une espèce de cluedo, parce que si on pose tous ces éléments, c'est vrai que c'est... Alors, elle ferme sa voiture, elle ferme la porte du box...
Elle n'a pas le temps de la verrouiller.
Elle n'a pas le temps de la verrouiller, mais à ce moment-là, où sont son sac à main et ses courses?
C'est dans l'appartement.
Elle est montée poser ses courses dans l'appartement.
En fait, voilà. Elle est descendue garer
sa voiture. Son rituel, c'était ça. C'était un rituel chez elle. Elle avait ses courses, elle posait ses courses, ses sacs, son sac, son téléphone à la maison. Elle se dépêchait, elle courait vite parce qu'elle avait peur qu'on règle sa voiture. Rentrait sa voiture dans son box. Elle était très maniaque, maladif, je dirais même. Elle rentrait sa voiture, elle fermait son box et je l'ai vue jusqu'à 3 fois. Revérifier s'il était bien fermé.
Elle avait des tocs.
Des tocs.
Ce qui laisse penser dans cette histoire de disparition, en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que souvent dans les affaires de disparition, on ne sait pas où la personne a disparu, on ne sait pas à quelle heure, et parfois même on ne sait pas quel jour. Là, on sait qu'elle a disparu entre 11h30 et 12h30, puisque des voisins l'ont vu rentrer. On sait où, en fermant son box, puisqu'on connaît parfaitement son parcours, et on sait la date. Et pourtant, les gendarmes ne font pas grand-chose, les premières constatations, mais ne font rien et ne croient pas la famille qui dit « ça n'est pas normal, ça elle fait ça ».
Ils viennent dire qu'ils arrivaient vite, qu'ils étaient déjà dans l'appartement.
En fait, ils sont venus parce que je pense que c'est parce que c'est pas la famille qui les appelle, c'est l'employeur.
C'est l'employeur qui dit, j'ai une employée qui a disparu.
Donc, ils arrivent pensant, je pense, découvrir quelqu'un de malade dans l'appartement. Ouais, en fait, c'est pour ça.
Entre ce jour et la découverte du corps de votre mère, il va se passer 4 mois, elle est retrouvée dans un bois avec 2 balles, au moins 2 balles, et pas de suspect, toujours rien. On a un nom qui est évoqué à un moment, Patrick Gâteau, qui est déjà soupçonné pour une autre affaire, mais rien. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gendarmes? Comment ils expliquent le fait qu'il n'y ait pas de...
Il n'y a pas de
suspect, outre cette piste Gâteau qui va s'avérer être une mauvaise piste après.
Disons que le manque d'empreintes, bon, il y a eu des loupés. Hein. Comme je vous dis, le maître chien n'est pas arrivé 2 jours après. Enfin, je ne me rappelle plus, 1 jour ou 2 jours après. En fait, le chien ne sentait plus rien du tout. Enfin, il y a eu plein de trucs. Le manque d'empreintes, de traces ADN et autres, ont fait qu'il n'y avait pas de suspect immédiat, quoi.
Pour Patrick Gâteau, voilà. il y a eu des suspects, il y a quand même eu des gens placés en garde à vue.
Mais le problème, c'est que ces suspects, ils sont apparus finalement assez tard dans l'enquête et que c'est très compliqué de vérifier un alibi 5 ans après, surtout quand la personne en question n'a pas d'emploi du temps très marquant. C'est compliqué.
Le scénario de la disparition, ça peut être quoi? Donc, elle est dans le garage, elle ferme la porte et là, quelqu'un arrive.
Elle l'oblige
à le suivre, c'est ça?
Oui, puisqu'il n'y a pas de traces de sang dans le garage. Ça, on le sait. Ça, ils ont fait quand même. Ils ont passé le garage et l'appartement Blue Star. Il n'y a pas eu d'agression. Elle n'a pas été tuée là. Ça, on le sait.
D'accord. Donc, quelqu'un l'emmène. Quelqu'un l'oblige à le suivre. Part avec elle. Donc là, on ne peut pas trouver d'ADN. ADN sur quoi? Puisqu'il part avec elle, donc on ne va pas trouver d'ADN.
Enfin, il y a eu des hypothèses, abracadabrantes, excusez-moi du terme, par rapport au garage, à quelle heure elle a pu se faire assommer, partir, perdre la boule. Enfin,
il y a eu beaucoup d'hypothèses qui n'étaient pas bonnes.
Mais que la découverte du corps rend complètement caduque de toute façon.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a plusieurs lieux dans l'affaire. Il y a le lieu de l'enlèvement, la première agression, le lieu de la séquestration, sans doute une voiture. Elle est partie dans la rue. C'est quelqu'un qui avait du caractère, Christiane Como. Elle aurait crié, elle aurait... Le lieu du meurtre et le lieu de la dépose du corps, le bois où on retrouve le corps. Donc ça complique, mais en même temps, c'est autant de chances de trouver des témoins.
Sachant que c'est quelqu'un qui peut tout à fait l'avoir obligé à le suivre tout près d'ici, dans l'immeuble, pas très loin. Et puis ensuite, l'avoir tué ici et déposer son corps plus tard.
Parce que les garages souterrains sont quand même bien cachés. Donc,
Ronald Ladier, elle est retrouvée dans ce bois du département de l'Ain, à 20 km de Chassieux, d'où elle habite.
Elle connaissait celui ou pas?
Non,
pas forcément.
Qu'elle n'y serait pas allée de son propre chef, a priori.
Non, pas du tout.
Pas à votre connaissance.
Par contre, il peut être connu par des pêcheurs, des chasseurs, des promeneurs aussi.
C'est un lieu qui est près d'un camping, donc qui peut être connu, effectivement.
Découverte fortuite par un homme qui se déplace dans le bois et qui trouve le corps. Elle a reçu 2 balles dans la tête, Ronald l'a dit.
Oui. Dont une dans la nuque, ce qui n'est pas rien.
Dans la nuque. Oui. Le corps est abîmé. forcément, donc on ne peut pas faire d'expertise pour savoir si elle a subi des violences sexuelles ou. Mais on nous parle aujourd'hui, donc le dossier va aller au pôle Colcas, est au dossier pôle Colcas. Depuis deux ans. On nous parle d'ADN, alors c'est quoi cet ADN?
Alors, c'est d'après ce que nous on sait, c'est des scellés qu'ils ont retrouvés, qui avaient été, perdus pendant un moment, qui n'ont pas été analysés à l'époque.
Peut-être sans doute lors du transfert des...
Parce que il y a eu un peu de cafouillage, je pense. Mais en fait, ils ont repris mon ADN, celui de ma tante et de mon frère, pour reconstituer celui de ma mère, je pense. Hein, et pour arriver à ces analyses. Et on est encore en attente.
Travailler avec ces technologies
aujourd'hui. Cet ADN, vous ne savez pas où il est? Si c'est sur... sur des restes de vêtements?
Non, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a un ADN. On sait qu'il y a des scellés, les vêtements... qu'elle portait, qui était, mais on ne sait pas encore ce que ça donne. Et vous savez qu'au pôle Colcas, ils sont assez avares d'informations.
Ils préfèrent travailler discrètement. Mais ils travaillent bien, mais discrètement.
Oui, pour nous,
malheureusement,
en tant que famille.
Il y a eu plusieurs gardes à vue. Il y a eu ce suspect qui a été un peu plus médiatisé que les autres, Patrick Gâteau. Mais est-ce que vous avez une piste, une idée, une thèse, une explication?
On en a plein.
Alors, comment vous dire? Quand vous arrivez à une chose comme ça, vous n'avez plus confiance en personne. Mm-hmm. Tout le monde est
les familles, potentiel. Les voisins, tout est...
Famille, voisins, potentiel coupable. Travail, tout.
Et tout le monde est innocent. Mm-hmm. Mais en fait, c'est terrible comme sensation.
Évidemment.
Et oui, il y en a que j'ai plus soupçonné que d'autres.
Vous soupçonnez encore aujourd'hui?
Et des personnes qui entouraient Christiane qui n'étaient pas forcément... bien pour elle. Enfin, voilà.
Oui, c'est.
Mais ça n'a rien donné.
Je vous ai interrompu, vous disiez son ancien.
Son ancien petit copain. Par exemple, au début, clairement, je lui ai dit en face, je lui ai dit, vous êtes pour moi le suspect numéro un. Parce que bon, c'était dans le on va dire, dans le feu de la gueule.
Réponse du type.
Ah, et ça l'a choqué.
Voilà. Bah, disons que, pour explication, c'est qu'en fait, Christiane l'avait conduit. Parce que lui voulait refaire sa vie avec Christiane ne voulait pas, parce que autrement elle aurait été obligée de partir loin de sa famille, donc loin de nous, loin de ses petits-enfants, c'était inadmissible. Et elle l'a conduit, et puis bon, voilà. Mais c'est une personne, entre autres, il y en a tellement.
Mais bon, ça c'était, on va dire, dans le début, où j'étais vraiment, je cherchais ma mère, j'étais vraiment dans le feu de l'action, et je lui dis clairement, enfin, je suis quelqu'un de très franc, moi, très franc, mais par contre, je dis, je vous accuse pas.
Mais ça n'a rien donné.
Je ne vous accuse pas, par contre.
Marion, la même question. Est-ce qu'il y a quelque chose...
C'est vrai que cet individu, on pouvait penser à lui, mais le meurtre est quand même assez particulier. Hein. C'est parce que c'est deux balles dans la tête, une dans la nuque, à bout, pas à bout touchant. Parce que,
ça ressemble à une exécution. Plus
ça ressemble vraiment à une exécution. Enfin, il faut l'avoir enlevé, transporté. Donc cet homme-là, ça semble quand même un peu gros pour lui. Il y a la dernière personne mise en garde à vue... C'est un homme qui, par la suite, a été mis en cause des affaires d'agression sexuelle sur sa fille. Et lui, c'est vrai qu'il avait déjà agressé plusieurs femmes en se jetant sur leur poitrine. Mais en même temps aussi, comme c'est des pistes qui ont été vues tardivement, c'est difficile de vérifier. Et on se heurte un petit peu à ce mode opératoire étrange. Et quand même, ils ont beaucoup fouillé sur les délinquants sexuels, sur les gens... Qu'est-ce qui nous dit que le fait qu'on lui ait retiré sa culotte, c'est pas une mise en scène? C'est tout à fait possible. On l'a vu dans d'autres affaires.
Ça fait partie
le centre de l'histoire.
Des questions qui restent. Merci d'avoir été dans l'affaire suivante. Je précise qu'il y a une association pour celles et ceux qui veulent vous aider pour payer tout ce qu'il y a à payer parce que les procédures sont extrêmement longues. Voici, elle s'affiche l'adresse mail christiane.como-letendre@hotmail.fr et ce numéro de téléphone 07 68 00 86 17. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau d'affaires suivantes.
C'est nous qui vous remercions.
Nous continuerons à suivre les développements, même discrets, du pôle de Nanterre. Merci beaucoup.